Salut, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire, on soulignait le 20 mars dernier la Journée internationale de la francophonie. Le prolifique romancier et essayiste franco-ontarien Daniel Poliquin est honoré à Ottawa.
Je suis né ici, on nous disait qu'on allait disparaître dans 20 ans. C'est les Québécois qui disaient ça. Eh bien, on est encore là. Et puis, on est encore là pour longtemps. On n'est pas un peuple sans littérature, sans histoire, en train de mourir. On est très vivant.
Des girls avec leurs guitars traversent l'Alberta dans le cadre du mois de la francophonie.
À Jasper, c'était des gens qu'on ne connaissait pas, mm-hmm. N'est-ce pas?
Yeah.
Alors, ils sont venus juste découvrir c'était qui Girls with Guitars. Alors, c'était spécial. C'était flatteur.
Musique encore avec Caristo, deux jumeaux et un jeune homme devenus des troubadours de la musique acadienne.
On a décidé de se nommer Caristo. C'est un vieux mot acadien qui veut dire des bottes en peau de chevreuil.
Des pétrolières et gazières albertaines refusent de payer leurs taxes municipales. Elles portent avec elles des arriérés de 268 millions de dollars. Pas de la petite monnaie. Et mange ton art du Eat Art à l'honneur dans les territoires du Nord-Ouest.
Mon intérêt au niveau artistique avec le Eat Art, c'est de m'assurer que la nourriture soit bonne pour les yeux, mais aussi pour le ventre. Donc, j'ai apporté mon expertise culinaire pour m'assurer que je suis fier de ce qu'on présente et puis qu'il y a aussi quelque chose de complet et de complexe dans les plats qu'on va offrir.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On célébrait le 20 mars dernier la Journée internationale de la francophonie. Durant tout le mois de la francophonie, des événements ont été montés à travers tout le pays et dans le monde entier. En Ontario, la Bibliothèque publique d'Ottawa en a profité pour honorer la carrière et l'œuvre de Daniel Poliquin, un romancier et essayiste franco-ontarien prolifique et un écrivain et traducteur littéraire primé qui réside, ça tombe bien, à Ottawa. La bibliothèque qui a nommé une salle en son honneur lors de cette journée internationale. Daniel Poliquin a d'ailleurs été fait membre de l'Ordre du Canada en 2005, officier de l'Ordre du Canada en 2018, honoré de nombreux prix et fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Daniel Poliquin a également travaillé comme interprète pour la fonction publique, de même que pour la Chambre des communes. L'endroit est symbolique parce que la succursale Rideau de la Bibliothèque publique d'Ottawa était, lors de son ouverture en 1934, réputée être la première bibliothèque publique bilingue français-anglais en Amérique du Nord. Dans son discours, Daniel Poliquin parle avec émotion de cette belle journée. Il dit « Je vis un moment parfait, entouré de gens que j'aime, dans un milieu que j'aime. La bibliothèque Rideau était la bibliothèque de notre quartier, de la Côte de Sable, dit-il. » Le voici au micro de notre journaliste Marie Hillès.
Aujourd'hui, j'ai pris congé de modestie. Parce que je suis très honoré. Ça fait très plaisir de voir qu'on n'a pas travaillé pour rien et même qu'on laisse quelque chose derrière soi.
Si je vous pose la question qui est Daniel Poliquin, le littéraire, qu'est-ce que vous me répondriez?
D'abord, un conteur qui vient d'une famille où on racontait des choses. Et comme on était des familles nombreuses, il fallait être intéressant pour capter l'attention des auditeurs. Et c'est comme ça que j'ai appris à raconter et plus tard à écrire.
Le 20 mars, c'est aussi la Journée internationale de la francophonie. Il me parle de ses origines.
Je suis né ici, on nous disait qu'on allait disparaître dans 20 ans. C'est les Québécois qui disaient ça. Eh bien, on est encore là. Et puis, on est encore là pour longtemps. On n'est pas un peuple sans littérature, sans histoire, en train de mourir. On est très vivant.
La succursale Rideau de la BPO a été inaugurée en 1934 par l'ancien premier ministre Sir Robert Borden. À son ouverture, elle était réputée être la première bibliothèque publique bilingue français-anglais en Amérique du Nord. Sonia Babington, bibliothécaire en chef et directrice générale du système de bibliothèques publiques d'Ottawa.
C'est un honneur pour Daniel Poliquin de célébrer lui-même ses œuvres et la francophonie ici à la succursale Rideau, où il y a beaucoup de clients francophones. C'est vraiment une journée très, très spéciale. La bibliothèque répond, pas seulement répond, mais reflète aussi la communauté. Et la francophonie s'est bien représentée dans ce quartier. La francophonie est vraiment vivante ici. Il y a des écoles françaises et des étudiantes qui sont venues lire leur poésie pour nous aujourd'hui. Et donc, si la bibliothèque peut refléter et enrichir cette partie de la ville, c'est très important. La francophonie dans ce quartier, c'est un élément très important.
Deux élèves de l'école secondaire de La Salle, André Lévesque Kinder et Sophie Cameron King, ont écrit et lu leur propre poésie. Ils sont émus d'être présents à la cérémonie.
C'est absolument incroyable. On a lu un de ses livres au sein de notre cours, donc c'est super, c'est incroyable.
C'est vraiment, c'est motivant de pouvoir voir quelqu'un qui vient de notre milieu, qui a peut-être une expérience similaire à la nôtre, qui a tellement de succès, qui est devenu comme chevalier de France, et c'est fou de comprendre que ça prête nous.
C'était un reportage de Marie Hillès pour IGL à Ottawa.
Daniel Poliquin parlait dans cette entrevue du fait que certaines personnes avaient prédit la disparition du peuple québécois dans un horizon de 20 ans. Il fait peut-être référence à l'écrivaine québécoise, animatrice et politicienne Lise Payette, qui avait produit un documentaire intitulé « Disparaître ». Et tout récemment, le chanteur québécois engagé Paul Piché se posait la même question cette année, invité dans une émission télé intitulée « Le Chalet ».
Bonjour, ici Judy Lesalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Nombre de sociétés pétrolières et gazières de la région de Rivière-la-Paix en Alberta sont loin d'être de bonnes citoyennes. Vous pensez peut-être qu'on parle de leurs obligations environnementales, mais non. Elles seraient nombreuses à ne pas payer leurs taxes municipales, imaginez-vous, selon les données révélées par l'association Rural Municipalities of Alberta. Les entreprises fautives ont des arriérés cumulés de quelque 268 millions de dollars, et c'est même 6 % de plus que le montant qu'elles devaient en 2021. Le président de l'association Rural Municipalities of Alberta se dit étonné de voir ces sociétés aller et venir sans être embêtées. Il réclame de la province qu'on lui donne les leviers dont elle a besoin, d'autant que le problème n'est pas nouveau dans la région de Rivière-la-Paix et ailleurs en Alberta. Des entreprises continuent d'ignorer leurs obligations au détriment des municipalités rurales qui peinent parfois à boucler leur budget. Les précisions de notre journaliste à Rivière-la-Paix, Imelda Wafak.
Les problèmes d'impôts fonciers impayés sur le pétrole et le gaz est loin d'être résolu dans les municipalités rurales. D'après le rapport de l'association Rural Municipalities of Alberta, qui représente 69 conseils municipaux et districts de la province, certaines sociétés persistent à ne pas payer leurs taxes aux municipalités. Selon le président de la dite association, Paul McLaughlin, le problème est clair. Il n'y a pas assez de mécanismes à marge pour forcer ces entreprises à payer, raison pour laquelle il y a eu une augmentation de 6% par rapport au montant déclaré pour l'année d'imposition 2021. Écoutons.
This is the third annual report where we've gone to our members. We've had 100% feedback from our members. The 69 rural municipalities that cover 85% of land based in the province.
69 de nos municipalités rurales couvrent 85% du territoire et desservent 15% de la population de la province. Nous n'avons pas en main les mécanismes nécessaires pour les forcer à payer leurs taxes. Et pourtant, on est face à une industrie très profitable qui nous doit 6,5 % de plus d'argent que l'an dernier, précise Paul McLaughlin.
Alarmingly, what you have is a situation where you actually have an extremely profitable industry, but still we've had a significant and not, in fact, actually the largest increase in unpaid taxes this year, which has resulted in a 6.5% increase over last year of unpaid taxes to the members I represent.
Dans la région de Rivière-la-Paix, certaines sociétés pétrolières s'inscrivent également au rang de ceux qui ne payent pas leurs impôts aux municipalités. Le président de Rural Municipalities of Alberta, McLaughlin, nous en parle.
But yeah, it's been a significant problem. Truth be told, it's been a problem throughout the entire province.
C'est un problème très répandu à travers la province, incluant Peace River, et cela a un impact sur le budget des municipalités.
It's a little more difficult than the north, just smaller populations. This is a bigger impact on their budgets too as well.
Jusqu'ici, le gouvernement a pris quelques mesures qui ne résolvent toujours pas le problème. À cet effet, le président de l'association Rural Municipalities of Alberta demande au gouvernement de davantage renforcer ses mesures afin de résoudre ce problème d'impôts impayés dans la province de l'Alberta.
Yeah, the government has taken a few steps, but those have not resulted in the effective change in payment of taxes.
Le gouvernement a pris certaines mesures, mais elles n'ont eu que peu d'effet. On demande au gouvernement de la province d'en faire plus.
Pushed by the government to make unpaid taxes part of the licensing and operation of facilities and transferring of facilities. In the province of Alberta.
Le président va jusqu'à proposer des solutions qui pourraient aider le gouvernement à gérer ce problème. Selon lui, l'Alberta Energy Regulator est mieux placé pour mettre la pression à ses entreprises afin qu'elles payent ce qu'elles doivent aux municipaux.
Our hope is the government. We've tried a few mechanisms and I will acknowledge that municipal affairs.
Le ministère des Affaires municipales nous a proposé certaines solutions. On demande aux régulateurs de l'énergie de l'Alberta d'envoyer un signal fort et de s'assurer que les pétrolières et gazières paient leur dû, incluant pour les puits forés sur des propriétés privées, de dire Paul McLaughlin.
Unpaid taxes is a criteria. Most of it has been fairly unsuccessful to date. And so what we're actually asking for is a strengthened signal from the Alberta Energy Regulator to actually ensure that property taxes are paid by oil and gas companies that are operating, and just as significantly, surface lease payments. So that's the payment for wells on private property in rural Alberta to ensure that those are paid in full as well.
Toutefois, certaines municipalités, à l'instar de Northern Sunrise County, ne rencontrent pas ce problème avec les entreprises pétrolières dans leur municipalité. Corinna Williams, préfète de Northern Sunrise County, dit que c'est une chance pour eux.
We are the fortunate ones in that we don't have that many outstanding oil and gas taxes. We are 90,000.
Nous ici, on est chanceux, les pétroliers ne nous doivent que 90 000 $. On a négocié des ententes de paiement avec les compagnies qui nous devaient de l'argent, mais les municipalités voisines ne sont pas toutes aussi chanceuses, note Corinna Williams, préfète de Northern Sunrise County.
Au cours des dernières années, le conseil municipal de Northern Sunrise a pu développer des stratégies pour amener ses entreprises à payer leurs taxes sans trouble. Écoutons.
We have worked with some companies.
On a travaillé avec les compagnies fautives.
Some problems, so we were able to work out a payment plan with them that was accountable for both sides, and that seemed to work quite well. So we're certainly willing to work with our companies and vice versa.
Corinna Williams a de la peine pour les municipalités voisines qui sont victimes et en même temps, elle s'insurge contre toutes ces entreprises qui refusent de payer les impôts fonciers aux municipalités. Écoutons.
Our concern is those companies are still using that.
Le problème, c'est que ces compagnies utilisent les infrastructures municipales et nous devons toujours en assumer les coûts et l'entretien. Elles paient leurs actionnaires, mais pas nous.
So it's disappointing when they're still up and running, they're still paying their shareholders, but they're not paying their taxes. And we do feel for our neighbors in that circumstance.
Ce problème n'est pas sans impact sur ces municipalités victimes. Par exemple, des impôts sont augmentés dans d'autres domaines d'activité pour combler le vide. Pourtant, ces sociétés pétrolières amassent de l'argent au quotidien. Corinna Williams, préfète de Northern Sunrise County.
Absolument,
les niveaux de services sont affectés au final. Plusieurs municipalités doivent augmenter leurs taxes. C'est injuste, ajoute Corinna Williams, préfète de Northern Sunrise County.
They have to decide what service levels they have to reduce, and likely at the end of the day having to increase taxes to other areas, which is really unfair because you've got a company that's still working, again, that's still paying their shareholders, but not paying their taxes, but utilizing the services that have been put forward for them from the municipality that they are in.
Dans un communiqué publié, Paul McLaughlin déclare que sans les municipalités rurales, l'industrie pétrolière et gazière serait loin d'être prospère qu'elle est. Par ailleurs, il dit que les impôts fonciers collectés servent à la construction et à l'entretien des routes et des ponts permettant à l'industrie pétrolière d'accéder aux ressources. C'était Imelda Wafek pour l'initiative de Journalisme Local.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca et suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI.
On pèse sur l'accélérateur de la francophonie, cette fois avec le trio Girls with Guitars, qui est en voie de compléter sa tournée albertaine, soutenue en cela par le Rassemblement des artistes francophones de l'Alberta, qui organise des tournées d'artistes à travers la province. Pour le trio de musique locale Girls with Guitars, plusieurs des destinations à son calendrier sont étonnamment une première. Le trio a lancé sa tournée à Bonnyville le 11 mars dernier, lors des festivités de la cabane à sucre. Les trois dames de la guitare ont ensuite découvert les publics de Jasper, Lethbridge, Canmore. Le groupe s'est aussi produit à Plamondon. La tournée qui coïncide aussi avec la sortie de leur premier CD, un EP de 5 chansons originales et d'une chanson tirée du folklore canadien-français. Leurs attentes ont été comblées. Vincent Lavoie a rencontré Karen Lavoie et Tracy Lord pour parler de leur tournée albertaine.
C'est Tracy Lord avec Girls with Guitars.
Et moi, c'est Karen Lavoie avec Girls with Guitars.
Super. Ben, tout d'abord, parlez-nous un peu, vous, ce qui avait été vraiment un moment clé, on va dire, de votre tournée. C'était votre spectacle à Jasper. C'était la première fois que vous êtes rendu là. Comment ça a été? Est-ce que vos attentes ont été satisfaites?
Oui. À Jasper, c'était vraiment beaucoup de plaisir. On a joué dans un petit... c'était au Legion. Et puis, c'était dans leur pub. Puis c'était vraiment une belle ambiance. Puis les gens ont eu beaucoup, beaucoup de fun. Alors ça fait que nous aussi, on a eu beaucoup de plaisir. Alors ça a très bien été.
C'était quoi vos premières impressions de Jasper?
Moi, j'adorais les montagnes. J'ai jamais été aux montagnes pendant l'hiver. Alors toute la neige, c'est crème. C'était super beau. Alors ça, c'était nouveau pour moi.
Puis moi, ça faisait très longtemps depuis que j'avais été à Jasper. Comme 15 ans, si pas plus. Alors, ça faisait longtemps depuis que j'avais marché dans le petit, pas un village, là, mais dans la petite ville de Jasper, puis c'est tellement joli. C'était le fun.
Puis en fait, ben c'est votre première tournée vraiment dans autant de villes en Alberta, et comme vous l'avez dit un peu, c'est des villes que vous n'avez pas visitées. Ça veut dire quoi pour vous, là, vraiment, de découvrir tout ça? Ça doit être vraiment une belle expérience.
Oui, à Jasper, ils ont dit que la population de Jasper, il y a environ 18% qui sont des francophones, mais c'est tous des Français de l'extérieur. Alors, tout le monde qu'on a jasé avec venait du Québec, Nouveau-Brunswick, sont pas vraiment nés à Jasper, là, mais...
c'est ça. Puis, en ce qui concerne Lethbridge, c'est la première fois que Tracy visite Lethbridge.
Mm-hmm.
Moi, je suis déjà venue une ou deux fois. Puis, c'est une belle ville aussi.
Puis si on applique ça, mettons, un peu sur un spectre un peu plus général, là, vraiment, vous allez faire plusieurs autres spectacles. Donc, votre état d'esprit par rapport à tout ça en général?
Ben, après Jasper, ça nous a vraiment relevé. C'était tellement le fun que ça nous a comme rassurés. Alors, notre état d'esprit, je pense, c'est plus l'excitement maintenant. Moins la nervosité, puis plus l'excitement.
Vis ta vie, oublie ton âge. Chante tes chansons avant que t'aies plus de voix. Danse autant que tes jambes te portent. Souris souvent tandis que tu as tes dents. Souris souvent tandis que tu as tes dents.
Souris, oui, souris souvent. Conseil entendu, Girls with Guitars et adopté. Et c'est avec le bonheur dans l'âme qu'on continue de fouiller la scène musicale francophone au pays avec nos journalistes qui ont suivi les activités y en cours durant le mois de la francophonie. Là, on s'arrête à Halifax pour vous parler rapidement du groupe acadien Caristo, T-A-U-X, qui a été invité à animer l'événement de la cabane à sucre organisé par le Conseil communautaire du Grand Havre. Ça se passe le dimanche 26 mars dans le Grand Halifax. Le groupe Caristo est composé de Sébastien Dole, violoniste et chanteur, chanteurs, Simon Robichaud à la guitare et au chant, et de Francis Robichaud aux percussions. Leur mission, faire revivre la musique traditionnelle acadienne. Sébastien Dole, violoniste du groupe, est l'invité de notre journaliste Adèle Gros-Perrin.
Callisto est né cette année, juste un groupe qu'on joue dans des restaurants comme ça, on fait de la musique pour les touristes l'été, donc c'est une itération de musique traditionnelle, et donc on a décidé de se nommer Callisto. C'est un vieux mot acadien qui veut dire des bottes en peau de chevreuil. On joue un mix de musique traditionnelle, donc style de violon des Maritimes, du Canada, la musique bluegrass un petit peu des États-Unis. On joue aussi du style Cajun, donc la musique de la Louisiane. Et tout ça, on mélange un petit peu de musique contemporaine dans tout ça aussi, et un peu de musique originale aussi, donc des choses qu'on écrit nous-mêmes. J'ai toujours eu le désir et le besoin de vouloir jouer le violon, et donc c'est comme ça que ça se manifeste pour moi. Je joue dans la communauté avec des sessions de jam qu'on fait avec Jacques Blin du groupe Sa et Guillaume Boulian. Donc on fait des rencontres régulières une fois par mois depuis cette année pour faire de la musique de violon, pour faire revivre un peu la tradition du violon qui existe ici à la Baie-Sainte-Marie. Ben, lorsqu'on fait une fête ou quelque chose comme ça, normalement l'action se passe dans la cuisine, c'est lorsqu'il y a la nourriture, c'est lorsque les musiciens s'installent. Kitchen party, c'est vraiment c'est l'atmosphère d'être proche avec le monde avec qui on joue. Donc pour moi, la définition de ça, c'est vraiment d'être à proximité des gens, faire les gens danser, bouger, interagir avec eux. Donc, c'est vraiment l'opposé d'être faire un grand spectacle sur une grande scène lorsqu'il y a peut-être plus de distance entre les musiciens. Kitchen party, c'est vraiment une approche beaucoup plus personnalisée. C'est ce qu'on fait quand on joue dans les restaurants. On s'assoit parmi les gens, on se faufile dans le restaurant parmi les tables pour jouer avec les gens. Donc, on est vraiment c'est la connexion avec le spectateur. Présentement, on est justement en train de planifier pour jouer cet été. Donc, on va jouer Musique de la Baie, on va jouer dans les alentours. Lorsqu'on trouve des festivals, on est partant de participer. On est en train de planifier avec le groupe Pied à Terre, donc un autre groupe, une autre itération de différents musiciens, mais c'est encore une fois avec Simon et Francis et moi-même, incluant Gilles Saunier à l'accordéon et le violon et Nathalie Robichaud qui fait des danses callées. Donc, notre groupe Pied à Terre fait genre de danse callée, des square dance ou des soirées, des veillées de danse comme ça. Et on est censé se rendre en France au mois d'août au festival La Semaine acadienne.
Merci à Sébastien Dole pour cette entrevue. C'était Adèle Pourigiel, Halifax.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Pouvait vous quitter sans faire un saut dans les territoires du Nord-Ouest, où nous attend Raphaël Hamel, qui est en compagnie de deux artistes adeptes du Eat Art, de l'art qui se mange. Au menu, Annie Maheu et Christophe Ballet, qui ont fait la route de Whitehorse à Yellowknife, pour présenter leur performance culinaire durant le Snow King. Ça se passait le 18 mars dernier. Ils font de la bouffe une œuvre d'art dont on peut se régaler à plus d'un titre.
Mon intérêt au niveau d'artistique avec le Eat Art, c'est de m'assurer que, selon mes niveaux à moi, que la nourriture soit bonne pour les yeux, mais aussi pour le ventre. Donc, j'ai apporté mon expertise culinaire pour m'assurer que je suis fier de ce qu'on présente et puis qu'il y ait aussi quelque chose de très, très complet dans de complet et de complexe dans les plats qu'on va offrir.
Pour moi, ça fait longtemps que je fais le Eat Art, puis c'est vraiment dur de faire le Eat Art tout seul parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer avec la nourriture qui se prépare à la dernière minute. Puis j'ai longtemps cherché pour un partner un partenaire de crime, de trouver un cuisinier qui a l'audacité de faire quelque chose qui est nouveau, réinventer la nourriture, mais en même temps d'avoir une connaissance culinaire. C'est pas tous les jours. Puis là, quand j'ai rencontré Christophe, qui est à la fois un poète et un guerrier de la cuisine, c'était comme... a deal made in.
Une entente signée au paradis.
Eh oui.
Quelque chose de même. Quelque chose de même.
Paradis n'étant pas l'enfer.
J'ai commencé à 19 ans, puis j'ai vraiment trippé. Dès les premières fois, je faisais comme des trucs avec des cordes à linge qui traversaient des salles de festival avec des paniers où on faisait des portraits sur des crêpes. Tu sais, déjà, c'était le fun. J'avais ma sœur qui montait sur des échelles pour décrocher ça. C'était vraiment comme dans la folie créative. Après ça, je me suis dit, super. Tu sais, gars, je fais des choses, mais j'ai pas envie de servir des muffins aux carottes tout le temps. Tu sais, j'ai envie de comme pousser un peu l'enveloppe. Fait que j'étais allée à l'Université Concordia étudier la performance. Fait que j'ai vraiment compris comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on stage. Puis ensuite, avec fière de ma formation en théâtre, j'ai pu convaincre l'école de cuisine gastronomique de Montréal que j'étais vraiment une bonne cuisinière. Une fois que j'ai fini ça, je me suis échappée en Afrique. En fait, j'avais envie de voir une façon différente de voir la nourriture. Donc, j'ai fait du Eat Art en Afrique du Sud, au Sénégal, dans différentes résidences d'art. Ça m'a vraiment aussi permis d'apprendre à voyager.
Qu'est-ce que ça vous fait de venir présenter ça à un festival unique au Canada, la meilleure salle de spectacle de Yellowknife au Snow Castle, au Snow King Château de Neige? C'est incroyable.
Bien, on s'entend que ça fit exactement avec le thème, échange thermique, tu sais, avoir la chaleur humaine dans un lieu fait de neige, là, c'est vraiment la meilleure introduction à l'œuvre. Fait que oui, on est vraiment contents, on en a entendu parler souvent du Snow Castle, puis on pouvait souvent pas se déplacer, mais là, on a pris le temps, puis ça va être le fun de se mélanger aux festivités.
Merci beaucoup d'être passé nous voir, Annie puis Christophe.
Merci beaucoup.
Ouais.
C'est déjà tout pour nous cette semaine. Merci à nos collaborateurs, Trice, Imelda Wafak, Marie Hillès, Vincent Lavoie, Raphaël Hamel et Adèle Gros-Perrin. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa, avec la précieuse collaboration de votre radio locale. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été là. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine.